Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu.
Tout ici, Jabodima.
Qui renverse des raisonnements, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Salut est quelque chose qui nous donne accès à la présence de Dieu. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui nous propulse automatiquement dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est à nous d'y entrer. Si cette pensée se transforme en résolution dans nos cœurs, nos vies seront bouleversées, véritablement bouleversées. Aujourd'hui, nous allons commencer ce temps de prédication en le consacrant aux enfants. Enfants et adolescents, hein. Et je voudrais en fait aujourd'hui parler à chacun d'entre vous d'une histoire qui se trouve dans le Nouveau Testament. Et cette histoire, c'est l'histoire de deux sœurs. Deux sœurs, Marthe et Marie. Marthe et Marie étaient deux sœurs que Jésus aimait. Et là, il se passe quelque chose de particulier. Ce jour-là, Jésus vient dans la maison de Marthe. Marthe est dans sa maison, Marie est ici, et Jésus vient. Vous savez qu'à l'époque, Jésus était sur terre, c'était un adulte, et puis il prêchait l'évangile. Il était en train de dire à tout le monde qu'on avait besoin d'être sauvé, et qu'il était le sauveur. Il était en train de dire aux gens que s'ils ne recevaient pas le pardon du Fils de Dieu, ils étaient perdus. Et voilà ce que Jésus prêchait. Et quand Jésus se promenait, quand Jésus marchait dans la rue, il était souvent entouré de beaucoup de gens qui l'écoutaient et qui étaient mais époustouflés par la manière dont il parlait. C'était quelqu'un d'exceptionnel, c'était le Fils de Dieu. Mais en même temps, c'était un véritable homme. Parce qu'il est né, comme vous et moi. Il a eu une maman. Et son père céleste, c'était Dieu, mais il avait aussi un père terrestre, c'était Joseph. Et donc ce Jésus marchait, parlait, il était en train de... On dit qu'il était dans son ministère, il était en train de servir le Seigneur, et il était en train de propager cette bonne nouvelle qui annonçait aux hommes et aux femmes la bonne nouvelle du salut. Et je sais que vous savez ce que c'est que le salut. Je sais que depuis une bonne année... Il y en a plusieurs, même beaucoup d'entre vous, qui ont accepté Jésus dans leur cœur et qui ont décidé de lui donner sa vie. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont fait. Alors imaginez-vous un petit peu Jésus, à l'époque, quand il marchait, il était rarement seul, je vous ai dit, il y avait ses disciples qui étaient avec lui, puis il y avait tous ces gens qui l'écoutaient. Et là, ce jour-là, Jésus arrive chez Marthe et Marie. Alors Marthe, elle est en train de préparer. Parce que il y a du monde à la maison, elle était très honorée, elle était vraiment heureuse d'avoir cette invitée de marque chez elle. Alors vous l'imaginez un petit peu à la maison, vous avez déjà vu un peu vos parents comme ils préparent un peu quand ils invitent un peu de monde chez eux, on prépare à manger, on nettoie un peu la maison, on fait en sorte que les invités soient bien accueillis. C'est du travail tout ça, non? Vous les avez vu vos parents faire ça? Et là Marthe était en train de faire la même chose. Elle était en train de travailler, elle préparait, peut-être qu'elle préparait à manger. La Bible ne nous dit pas exactement ce qu'elle faisait, mais la Bible nous dit qu'elle était en train de s'affairer. Elle était très active. Alors vous l'imaginez, Marthe en train de préparer, peut-être qu'elle était en train de faire la pâte dans la cuisine, et puis elle arrêtait un petit peu, elle regardait un petit peu ce qui se passait dans les autres pièces, puis en passant, elle passe dans le salon, peut-être qu'ils étaient dans le salon, puis en passant, à un moment donné, elle regarde, et puis elle voit sa sœur, Marie, tranquillement assise au pied de Jésus. Jésus était en train de parler, il était en train d'enseigner, et elle, elle est là, assise à ses pieds, en train de l'écouter. Et Marthe, elle se dit dans son cœur, « Bah dis donc, elle est gonflée celle-là. C'est moi qui suis en train de travailler. On est en train d'inviter Jésus, il y a du monde, il y a du travail, et je suis toute seule à travailler. Alors elle passe, elle retourne dans la cuisine, puis elle continue de pétrir la pâte, mais elle n'a plus de joie dans son cœur. Elle commence à avoir un peu ce qu'on appelle du ressentiment. C'est-à-dire qu'elle commence à se dire, elle commence à en vouloir un petit peu à sa sœur Marie. Elle se dit franchement, elle exagère. Il y a du monde, et il n'y a que moi qui travaille. Je suis en train de travailler pour préparer, c'est une bonne chose. Et je suis toute seule à le faire. Et elle commence à avoir du ressentiment, elle a un petit peu de colère. Alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle continue de travailler, mais ça commence à bouillonner dans son corps, dans son cœur. Et la colère qui monte, puis à la fin, elle n'en peut plus, elle laisse la pâte, elle va dans le salon, et elle interrompt tout le monde. Et là, elle s'adresse à Jésus. Alors Jésus, c'est quelqu'un d'important. Quelqu'un qu'elle respecte beaucoup. Elle lui dit « Maître » ou bien elle lui dit « Seigneur, ça ne te fait rien de voir que je suis toute seule à travailler et que ma sœur Marie ne fait rien ? S'il te plaît, dis-lui un peu de venir m'aider. » Qu'est-ce que Jésus lui répond ? Il lui répond quelque chose de très particulier, de très bizarre. En général, quand on est invité chez quelqu'un, on essaie d'être poli, on essaie d'être aidé. Alors peut-être qu'on aurait pu imaginer Jésus dire « Oh là là, Marthe, je suis désolé. » C'est vrai que je parle, j'ai accaparé ta sœur. Ta sœur est là en train d'écouter et c'est un peu de ma faute. Marie, excuse-moi de t'avoir dérangé, tu peux aller aider ta sœur qu'elle est en train de préparer. Marthe, j'apprécie beaucoup ce que tu fais pour moi, merci. Et puis désolé. Vous pensez que c'est ce que Jésus a dit ? Peut-être que beaucoup d'entre nous auraient dit quelque chose de ce genre, parce qu'on est, nous sommes polis, on respecte les personnes qui nous invitent, on n'est pas chez nous. Et Jésus, lui, non, n'a pas donné cette réponse. Pourtant, Jésus était quelqu'un de très poli, d'extrêmement poli. C'est celui qui respecte les autres mieux que n'importe qui d'autre. Et pourtant, ce jour-là, Jésus a dit à Marthe, « Marthe, tu te trompes. C'est vrai, tu es en colère, je le sens bien, mais là, tu te trompes. Tout simplement parce que Marie est en train de faire exactement ce que le Seigneur lui demande de faire en ce moment. » Alors non pas, Marthe, que ce que tu fais est une mauvaise chose, mais tu n'es pas en train de faire la chose que le Seigneur te demande. C'est pour ça que tu n'as pas de paix à l'intérieur. C'est pour ça que tu es agité, inquiété, tu te fais du souci, tu t'énerves, et que la paix n'est plus en toi. Voilà, c'était juste une petite histoire. Alors on ne sait pas trop comment Marthe a réagi à ça, mais je peux vous dire que ça lui a parlé au fond de son cœur. Et c'est ce que Jésus fait à chaque fois. Vous remarquerez, quand vous écoutez des histoires de la Bible, à chaque fois que Jésus répond à une question qui lui est posée, souvent, il ne répond pas de la manière dont on s'y attend. Et il répond en regardant droit au cœur. Il voit les motivations, il voit ce qu'il y a au fond des gens. Et il leur donne la réponse qui va bien, et à laquelle on ne s'attend pas forcément. En fait, ce qui s'est passé chez Marthe, c'est une erreur au niveau de ses pensées. Il y a une chose très importante que le Seigneur a voulu enseigner à ce moment-là. Il a voulu montrer à Marthe que il fallait faire attention à suivre la bonne pensée dans sa tête. Pourtant, Marthe n'était pas en train de faire quelque chose de mal. Elle était en train de travailler. Elle était en train de servir le Seigneur. Ce n'était pas quelque chose de mauvais, préparer à manger. Est-ce que c'est mal ? Vous pensez que c'est une mauvaise chose que de préparer à manger pour les gens qui viennent à la maison ? De préparer, de faire en sorte que tout soit propre ? De travailler ? Non, c'est une bonne chose. Et pourtant, Dieu lui dit que ce n'était pas la bonne chose à faire à ce moment-là. Et en fait, Marthe a dû apprendre dans sa vie à écouter les bonnes pensées. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Et si vous, les enfants, vous arrivez, alors que vous êtes tout petits, à entendre les pensées que le Seigneur met dans votre cœur, alors votre vie sera une vie parfaitement réussie. C'est pas facile d'entendre au départ les pensées de Dieu, parce qu'on a l'impression que ce sont des pensées, on les mélange avec d'autres pensées. Là, Marthe, par exemple, avait fait un gros mélange. Elle pensait bien faire, et en fait, elle avait mélangé les pensées de Dieu avec ses pensées à elle, qui lui disait, il faut préparer, il y a du travail, forcément, on travaille. Elle était en train de fonctionner de façon logique. Et des fois, on fonctionne non pas forcément de façon logique, mais on écoute les pensées qui correspondent à ceux dont on a envie. Parfois, il est beaucoup plus facile de quitter la table et aller directement jouer que d'écouter la pensée qui vous dit « Tiens, peut-être que je vais débarrasser pour pouvoir aider mon papa et ma maman. » Et les parents sont là pour vous donner des indications, pour vous aider à savoir quelles sont les bonnes choses à faire et quelles sont celles qu'il vaut mieux éviter. Sachez que si dans votre vie de tous les jours, dès cet après-midi, dès ce soir, dès demain, pendant votre vie quotidienne, vous apprenez à faire le tri, à reconnaître la pensée de Dieu, il va se passer quelque chose de très très fort dans votre vie. Parce que plus on grandit, et plus il est difficile d'accepter de renoncer à ses propres pensées pour suivre celles du Seigneur. Parce qu'on finit par s'habituer à suivre ses pensées, à suivre ses propres envies, à suivre son propre raisonnement dans sa tête. Et après, on a du mal à faire la part des choses. Mais si alors que vous êtes tout petit, vous apprenez à suivre les pensées du Seigneur, alors votre vie sera une véritable réussite. Et les pensées du Seigneur, vous savez, comment on fait pour les entendre? Il faut déjà savoir une chose. Le jour où vous avez donné votre vie à Jésus, le jour où vous lui avez demandé d'entrer dans votre cœur, eh bien, l'Esprit même de Dieu est venu habiter en vous. Ça ne veut pas dire que Jésus, il est à côté. Ça ne veut pas dire qu'il est tout à côté. Ça ne veut pas dire qu'il est tout à côté et qu'il vous colle. Non, il est carrément à l'intérieur de vous. Il est dedans. C'est pour ça que quand il vous parle, il n'a pas besoin de sortir et puis dire quelque chose qu'on entend à la voix pour que ça rentre dans l'oreille, et ça rentre dans le cerveau et ça descende dans le cœur, vu qu'il est déjà dans le cœur. C'est pour ça que souvent, la plupart du temps, on n'entend pas le Seigneur nous parler avec nos oreilles parce qu'il nous parle de l'intérieur. Et quand il y a une pensée qui vient de Dieu, vous la reconnaissez parce qu'elle vous donne une grande paix. C'est quelque chose qui vous dites « Waouh, je suis sûr que c'est la bonne chose que je dois faire. » Et parfois, ça correspond pas forcément à la chose que vous aimeriez faire. Il y a une différence. C'est important d'apprendre à reconnaître ces différences. Vous avez une sorte de paix intérieure. Mais c'est une pensée. Apprenez alors que vous êtes tout petit, alors que vous êtes jeune, alors que vous n'êtes pas encore entré dans la vie adulte, apprenez à suivre ces pensées. Marthe, c'est ce qu'elle a appris ce jour-là. Voilà, c'était juste une petite histoire pour vous, parce que vous n'avez pas l'école de dimanche pendant le mois d'août. Alors c'était quelques minutes pour vous, en cadeau. Pour vous aussi. Maintenant, je vais raconter la même histoire aux grands. Parce que les grands aussi, ils ont besoin d'entendre l'histoire de Marthe et Marie. On va apprendre un petit peu, d'ailleurs on va la lire, dans Luc 10, verset 38. C'est là que l'histoire est racontée. Luc, chapitre 10, verset 38, jusqu'au verset 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, nommée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette petite anecdote. On va essayer d'analyser un peu ce passage ensemble. Comme on vient de le voir avec les enfants, ce que Marthe faisait n'était pas une mauvaise chose. Je suis persuadé que ça correspond à son caractère. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un épisode où il est question de Marthe, elle est souvent en pleine action. C'est pas dans son caractère, ce n'est pas le tempérament un petit peu apathique qui laisse faire, qui observe. Elle est souvent sur le devant de la scène. C'est son caractère. Et c'est pas mauvais en soi. Le Seigneur a besoin de gens dynamiques comme ça. Nous sommes tous différents. Là, Marthe, au verset 40, est occupée à divers soins domestiques. Il y a une autre version où il est question de Marthe est absorbée par ce qu'elle fait. Elle est complètement prise par les soins domestiques et le travail. Et elle se trouve dans une situation où elle commence à se fatiguer. Et on va parler de ça aujourd'hui. Elle ressent une certaine fatigue. Et c'est pas juste une fatigue physique, c'est une sorte de lassitude et qui se transforme peu à peu en amertume, en ressentiment. Il est étonnant de voir au verset 40 ce que ça génère chez Marthe. Elle s'approche de Jésus, certes, elle s'adresse à lui en l'appelant maître, en l'appelant Seigneur, mais est-ce que vraiment, en dehors de ces mots, de cette formule de politesse, est-ce que son cœur est vraiment dans une attitude de révérence et de respect ? Elle est en train de l'interpeller. Elle est en train de lui dire, de lui poser une question où la réponse est implicite. Ça ne te fait rien que je sois en train de travailler et puis elle non ? Autrement dit, tu cautionnes cette injustice ? Et puis à la fin, elle ponctue avec « dis-lui ». Elle donne un ordre au Seigneur. On n'est pas véritablement dans une attitude de révérence. On n'est pas dans une attitude de respect. Et Marthe, là, on sent une des manifestations de cette fatigue, le fait de ne pas avoir été véritablement à sa place, se manifeste déjà par cette attitude qui n'est pas parfaite, qui n'est pas respectueuse envers le maître. On continue au verset ce qui suit. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Alors, qu'est-ce que c'est que l'inquiétude ? Quand on regarde la définition de « inquiétude », c'est quelqu'un qui est troublé par des soucis. La quiétude, c'est le calme, c'est la tranquillité, c'est le repos. Et l'inquiétude, c'est le contraire, c'est-à-dire l'agitation, l'absence de calme, l'absence de repos. C'est comme ça que Marthe se trouve. Elle est en pleine action, mais elle n'est pas dans le repos. Et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Nous allons parler de la notion de repos et la notion de travail dans le Seigneur. Elle est agitée. Et le Seigneur lui dit, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Alors, pourquoi ? Pour beaucoup de choses. Voilà encore un autre point important. En fait, Marthe n'est pas axée sur une vision bien claire. Elle est prise par plein de choses en même temps. Ce qu'on dit être un petit peu dissolu, ne pas être canalisé. Elle part un peu dans tous les sens. Et le Seigneur met une opposition claire entre ce beaucoup de choses et le verset qui suit. Le verset qui suit en 42, c'est une seule chose est nécessaire. À l'opposé de beaucoup de choses, une seule chose est nécessaire. Si dans ma vie, je n'ai pas cette conscience d'appel, si mon appel, l'appel qui est sur ma vie n'est pas clairement identifié, je m'expose à courir dans tous les sens, en admettant que je veuille servir le Seigneur. S'il n'y a pas d'appel clairement identifié dans ma vie, je vais accomplir toutes sortes de tâches. Si je ne vis pas dans une intimité avec le Seigneur, si je ne demeure pas dans sa présence, je ne vais pas être rempli de Dieu dans ma vie. Donc ma consécration, si elle n'est que partielle, va laisser la place à toutes sortes d'objectifs. Je vais courir après mes besoins, je vais courir après mes devoirs, je vais courir après mes désirs, je vais courir en fonction de la pression que je ressens, que je reçois de l'extérieur, les sollicitations. Je vais me disperser dans tous les axes. Et ça, c'est la meilleure manière de se retrouver épuisé. Non seulement épuisé, mais avec aucune construction, rien d'établi, rien de bâti. Et ça, c'est le comble. Passer toute une vie à dépenser d'énergie pour une absence de résultat ou pour un résultat médiocre, ce n'est pas du tout le plan de Dieu. Et je pense que quand on réfléchit un petit peu à cette réponse de Jésus, il y a cette indication claire et nette, une fois de plus, de cette volonté que Dieu a de nous voir marcher au milieu de sa volonté, en ayant clairement identifié notre appel, en marchant selon cette vision, et en étant dans une intimité, dans une proximité, en étant dans sa présence. On va insister un petit peu sur cette notion de repos et travail. Vous savez, souvent le repos est, à tort, défini comme le far niente. Ça vient de l'italien, fare niente, non pas que les Italiens soient des paresseux, mais fare niente, ça veut dire ne rien faire. D'accord? Le far niente, c'est ça. C'est ce un peu à quoi on aspire quand on est en vacances. Et je ne dis pas que le repos et le fait de lâcher un petit peu, baisser un petit peu le rythme, de prendre des vacances, est une chose anti-biblique, loin de là. Mais la notion de repos n'est pas le far niente. Imaginez un petit peu Adam, dès le début, avant la chute. Adam, dans le jardin. Qu'est-ce qu'il faisait? Imaginons le monde parfait, avant le péché. Adam était dans le repos, parce que c'est après qu'il a commencé à transpirer, à connaître ce que c'était qu'une terre aride, qui demande beaucoup de travail, de fatigue pour obtenir du fruit. Mais avant le péché, dans le jardin, qu'est-ce que faisait Adam? Voilà. Est-ce qu'il faisait rien? Il était tranquille, il se baladait dans le jardin, louait le Seigneur. Non, Adam était gestionnaire, il avait un travail à accomplir. Il était celui qui gérait le jardin, il était celui qui gérait la création, il était celui qui donnait le nom aux animaux, donc il y avait cette notion de classification, d'ordre. Il était en pleine activité, c'était d'un collaborateur. Ce que Dieu avait fait avait été confié à Adam et Adam avait un travail à accomplir. C'était pas de l'oisiveté. Et pourtant, il n'y avait pas de fatigue. Et je crois que là, on comprend ce que c'est que le repos selon le cœur de Dieu. C'est là qu'on comprend ce qu'est le travail selon le cœur de Dieu. Si je travaille, une fois que j'ai compris quel est mon appel, quand je travaille, après avoir clairement identifié mon axe, quand je travaille en étant et en demeurant dans la présence de Dieu, j'entre dans une dimension toute nouvelle. Je retourne dans la dimension dans laquelle l'être humain était avant la chute. C'est le péché qui a dénaturé la notion de travail. Et donc la notion de repos qui a subi elle aussi, qui s'est dégénérée avec le temps. Même dans la sagesse populaire, on a vu que l'oisiveté ne conduit pas à quelque chose de bon, n'est pas à la source de la prospérité. Il y a des expressions qui existent. On le sait. Le repos selon le Seigneur, c'est le fait d'entrer dans une vie, dans une activité où on est poussé par son onction. Et ça, si on le comprend, notre vie change complètement. Alors oui, nous sommes sauvés. Je pense que tous ceux qui sont présents ici ont donné leur cœur et leur vie à Jésus. Comme je le disais tout à l'heure, le salut nous donne un droit d'accès. Légalement, nous sommes dans la maison de Dieu. Mais s'approcher du trône, entrer dans sa présence, ce n'est pas automatique. On croit parfois que dès qu'on est sauvé, il y a un mécanisme spirituel qui nous propulse et boum, on se retrouve en face de Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On peut très bien vivre toute une vie en n'ayant pas forcément besoin, et John Dever le dit très clairement et très simplement dans son livre, en ne ressentant pas le besoin, tout simplement parce qu'on est repu d'autre chose. On en a parlé plusieurs fois cet été. Si je me nourris d'autre chose, bien je suis nourri, je n'ai plus faim. C'est la même chose qu'a vécu Jim Cimbala dans son témoignage. Il était, tant qu'ils étaient dans une attitude d'autosuffisance, bien ça, l'Église elle avançait avec les problèmes, avec le peu de bénédictions. Jusqu'au jour où Jim Cimbala n'en pouvait plus, fatigué. Il s'adresse à Dieu et puis on l'a vu l'année dernière, il n'arrive même pas à finir sa prière, il tombe en sanglots et là il s'abandonne complètement. Et là, tout commence. Là, il reçoit la révélation, il entre dans la présence de Dieu et du coup, son travail qu'il continue à effectuer est fondamentalement différent de celui qu'il avait accompli jusqu'avant. Juste avant, c'est que son travail est poussé par l'onction. Et là, c'est une différence fondamentale. Il y a une petite image toute simple à laquelle j'ai pensé. Il y a quelques semaines, je me rendais à une petite réunion. Il y a plusieurs personnes professionnelles à laquelle plusieurs personnes se rendaient, dont une dame d'un certain âge. Et j'étais surpris de la voir venir à vélo. Je me disais, à vélo, dans Paris, c'est assez rare. surtout par rapport à son âge. Et du coup, elle me présente son matériel. Elle me dit, c'est un vélo électrique que j'ai. Et ça, c'est génial. Elle me dit, bon, quand il y a des côtes, effectivement, c'est pas un vélo moteur, il faut que je pédale. Mais alors, ça n'a plus rien à voir. Puis le soir, j'arrive à la maison, pop, je le branche, et le lendemain, c'est reparti. Et donc, elle se promène, et les côtes ne lui font pas peur. Malgré le fait qu'elle soit pas une super sportive, elle réussit à aller et venir et à gravir toutes les côtes, simplement parce qu'au moment donné, quand ça devient un petit peu difficile, pop, elle met le moteur, et elle continue de pédaler. Elle ne s'arrête pas de pédaler, mais elle continue, et elle arrive là-haut, presque sans effort, ou avec un effort modéré. Et elle réussit à atteindre l'objectif. Et je crois que ça, c'est une image qui colle parfaitement à ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à des œuvres qui nous dépassent complètement. Et trop souvent, d'une part, on ne cerne pas l'appel, et on essaie de travailler un petit peu dans des œuvres qui nous paraissent bonnes, et on le fait sans onction. Ça vous est déjà arrivé de ressentir ce malaise, cette déception, cette frustration de voir le peu d'impact du témoignage que vous donnez à quelqu'un. Et vous dites, mais non, elle n'a pas reçu le Seigneur, cette personne. Alors certes, il peut y avoir des étapes dans la vie, et on entend des témoignages, hein, où les personnes ont entendu plusieurs témoignages, et puis c'est pas seulement forcément celui qui sème qui va récolter. Nous savons ces choses-là. Mais il y a des moments où on sent que les paroles que l'on prononce n'ont pas d'effet. Ça tombe, il n'y a rien. Il n'existe pas de meilleur témoignage que la présence de Dieu en nous. À un moment donné dans ma vie, une période où j'étais plutôt rétrograde, il y a une personne, j'avais un groupe d'amis à la maison, puis une personne qui voit, je ne sais plus, c'était un CD ou un bouquin, et qui me dit, ah ben tiens, je ne savais pas que tu étais chrétien. Elle m'a dit une phrase du style, bah tiens, je connaissais pas cet aspect de ta personne. Voilà, ça c'est un témoignage super. Et à côté, à l'opposé, quand Pierre passait dans la rue, les gens se débrouillaient, regardaient le soleil, regardaient Pierre, et se débrouillaient de se mettre à l'endroit où l'ombre pourrait passer sur eux. Ça c'est un autre témoignage. La différence, c'est la présence auprès de Dieu. La présence de Dieu dans la vie des gens. Il est incroyable de voir qu'il y a des personnes qui sont proches de l'Évangile, mais qui, d'un point de vue intellectuel, ne peuvent pas faire le pas, n'y arrivent pas. Tout simplement parce qu'elles ne réalisent pas qu'elles ont besoin d'être sauvées. Alors, est-ce que vous croyez que c'est en étant joyeux? Oui, en étant joyeux, la personne peut voir qu'il y a de la joie dans ta vie. Donc ça peut lui donner envie de savoir d'où vient cette joie. Oui, c'est vrai. Tu peux être aussi quelqu'un qui attire en étant sympathique. Mais il ne s'agit pas d'amener des gens à adhérer à un mouvement. Il s'agit d'être un canal par lequel les personnes réalisent qu'elles ont besoin d'être sauvées. Les gens qui réalisent qu'ils sont morts, qu'ils sont perdus. Et ça, on ne peut pas le faire uniquement en s'appuyant sur notre capacité, nos capacités oratoires, ou la manière, la bonne technique de présentation de l'Évangile. Le témoignage n'existe que s'il est vivant. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'Évangile et les autres religions? La différence fondamentale, c'est que notre Dieu vit, il est vivant. Mais sinon, si vous parlez à un niveau purement intellectuel, mais il y a de bonnes choses dans les religions. Il y a de bonnes choses dans les autres religions, même en dehors de la religion, dans certaines philosophies de vie, il y a de bonnes choses. Et il y a des gens, beaucoup de gens, trouvent un cadre dans leur vie et ont une vie relativement bien réglée en mettant en pratique certains préceptes. Et ils sont parfois même plus performants dans certaines œuvres que certains chrétiens. Il ne s'agit pas d'amener les gens à une conversion intellectuelle ou émotionnelle. Il s'agit de préparer le terrain et de travailler sous l'onction, de sorte que l'esprit, à un moment donné, agisse et effectue cette conviction de péché. La personne réalise qu'elle est perdue. Et là, elle se tourne vers la solution parce qu'elle a un contact avec celui qui est vivant et qui se manifeste en elle. Voilà, ça c'est une conversion. Et moi, c'est ça que je voudrais vivre dans ma vie. J'ai pas envie de passer mon temps à parler de Dieu aux autres et dire combien je suis content d'être chrétien. Parce que les gens vont dire, c'est super, je suis super content pour toi. Mais tu vois, ça fait pas vraiment écho en moi. Parce que j'ai une autre culture, j'ai un autre tempérament, j'ai vécu de mauvaises expériences dans le milieu. Mais je crois que ce que tu vis est une bonne chose. Et qu'on peut-être on peut le vivre d'une autre manière. Le bouddhisme dit ça. Peu importe les religions, c'est pour ça que cette religion, ce mouvement philosophique, on va dire, prend de plus en plus d'ampleur, parce que c'est très flatteur pour l'intellect. Le bouddhisme ne dit pas, il n'y a qu'un seul chemin pour passer de l'autre côté, peu importe le chemin que tu prends, l'important, c'est de passer la rive. C'est beau, mais c'est faux. Parce que il n'y a qu'une seule barque qui nous fait passer d'un côté à l'autre. Il n'y a qu'une seule manière d'être sauvé, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de celui qui est ressuscité, c'est celui qui est vivant. Donc si je veux, à un moment donné, transmettre l'évangile à quelqu'un, et qu'il n'y a pas la vie de Jésus en moi, c'est peine perdue. Ça sera un travail privé d'onction. Et vous savez, c'est difficile pour les gens, pour certaines personnes, de donner leur vie au Seigneur. Surtout pour ceux qui ont une bonne vie. Quelqu'un qui a vécu quelque chose, enfin, qui a eu un passé très chargé, qui se retrouve en train de payer les conséquences de ses erreurs, de ses actes, qui se trouve au fin fond d'une prison, qui réalise que sa vie est un échec monumental. Cette personne-là, vous lui parlez du salut, elle va plus facilement adhérer. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas parce qu'on constate que notre vie est un échec qu'on va se rendre compte qu'on a besoin d'un sauveur. C'est la prise de conscience que si nous ne sommes pas pardonnés de nos péchés, nous allons mourir. C'est ça la base de l'évangile. Et quelqu'un qui a une bonne vie, quelqu'un de correct, quelqu'un qui n'a pas fait de grosses bêtises dans sa vie, va avoir beaucoup de mal à... Ah bon, j'ai besoin d'être sauvé. Pourquoi je vais mourir? C'est ça en fait. Et ça c'est vraiment très 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 fréquent. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais dernièrement, le Seigneur a mis sur mon chemin quelqu'un avec qui je discute, une personne, alors quelqu'un de bien. Ça, je peux vous assurer, c'est quelqu'un de bien. Et elle a du mal à comprendre. Mais je ne me fatigue pas. Je lui ai parlé de ma vie, de mon témoignage, et je ne m'attends pas à ce que je réussisse à la convaincre. Je sais que ce n'est que l'onction et la révélation de Dieu en elle. Il n'y a que ça qui lui permettra de passer de la mort à la vie. Parce que je peux vous assurer qu'elle n'a pas du tout l'impression d'être morte. Parce qu'elle a une bonne vie. Pensons un petit peu à Noé. Vu par l'humanité entière comme un vieux fou. Quelqu'un qui est dans un délire. En psychiatrie, vous savez, ceux qui sont dans un délire, qui ont déconnecté avec la réalité, sont dans une pathologie qu'on appelle la psychose. Être psychotique, c'est, boum, perte de contact avec la réalité. Là, les gens bien pensants de l'époque devaient se dire, très sympathique, mais alors, complètement déconnecté. Et on pourrait imaginer voir cet homme à fond dans son projet, en train de construire un truc qui n'avait jamais existé jusqu'à présent. C'était une bâtisse. L'humanité n'avait jamais construit un truc. Même au niveau technique, c'était complètement avant-gardiste. Donc déjà, imaginez un petit peu la réaction des gens. Et en plus, cette grosse bâtisse qui n'ont même pas les moyens techniques de déplacer se trouve loin de la mer. Il est fou. Et je pense, tu sais, quand on raconte l'histoire aux enfants, on se dit, ouais, les méchants se moquaient de Noé, mais Noé était gentil parce que lui entendait la voix de Dieu, il construisait le bateau, puis tous ceux qui étaient méchants, ben, ils sont morts, paf. Et c'est pas comme ça. Hein. Parce que certainement, parmi ceux qui se moquaient de Noé, il y avait peut-être des mécréants. Parce qu'effectivement, il est dit dans la parole que l'humanité était particulièrement dépravée à ce moment-là. Donc c'est vrai, il devait y avoir des mécréants, mais moi je suis persuadé que parmi tous les cadavres qui flottaient autour de l'arche, quelques jours après le déluge, je suis sûr qu'il y avait peut-être des gens bien. Et la différence entre ces gens bien et Noé, c'est que eux n'avaient pas reçu la révélation. Ils étaient pourtant des gens bien. Peut-être des gens qui ne sont pas forcément moqués de Noé, qui ne pouvaient pas décemment le suivre dans son délire, mais qui n'étaient pas forcément en train de se moquer de lui. Mais ils sont morts. Parce qu'ils n'ont pas eu cette révélation. Pourtant, Noé il est dit dans la parole qu'il a pas seulement construit l'arche, mais qu'il annonçait des choses. Hein. Il n'a pas gardé cette révélation pour lui, il la propageait. Mais il y a cette notion, et on est vraiment dans une situation très analogue aujourd'hui. Nous sommes dans l'arche et nous savons ce qui va se passer. Mais pas parce qu'on a décidé un beau jour d'adhérer à ce mouvement religieux et de croire à ça plutôt qu'à autre chose. C'est qu'à un moment donné, ça s'est allumé en nous. Et il faut que ça s'allume chez les autres. Mais ça ne peut s'allumer que si c'est le Seigneur qui le révèle. Si le Seigneur ne le révèle pas, au pire, on aura des adeptes, des gens qui suivent parce qu'ils sont plus ou moins d'accord avec le mouvement. Mais il ne s'agit pas de suivre un mouvement. Il s'agit de recevoir le salut. Et une fois que le salut est là, alors on entre plus ou moins dans la présence de Dieu. Cette notion de d'onction n'est pas un plus, ce n'est pas une option réservée à quelques-uns. C'est quelque chose que le Seigneur désire nous donner. Il a tout fait pour qu'on l'ait, cette onction. Il a payé le prix le plus élevé, tellement il voulait qu'on entre dans cette dynamique-là. Il voulait que l'on travaille avec efficacité. Je vous invite juste à méditer sur deux versets et on va conclure là-dessus. Matthieu 11, 28. C'est un verset que l'on connaît tous. On va juste le relire. C'est un verset qui commence par « Venez, venez à... » Voilà, vous tous qui êtes fatigués et chargés. On le lit ? 11, 28. Ce n'est pas 11... Ah oui, je suis pas dans la bonne... Excusez-moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que vous comprenez quel est le repos dont parle Jésus ? Souvent, ce verset, il est compris en premier par repos dans le sens de soulagement par rapport à une vie chargée de péché, donc pardon. Et c'est vrai, c'est une réalité. Hein. Le Seigneur nous soulage de notre lourd passé. Il nous donne une nouvelle nature. Et ça, c'est tellement apaisant. Mais je pense qu'il n'y a pas que ce repos-là. Il nous donnera du repos, ça veut dire que dorénavant, notre vie, notre travail va se faire dans le repos. On ne sera pas comme Marthe. On sera comme Marie. Il ne s'agit pas de rester assis et ne rien faire. Le repos, ce n'est pas l'oisiveté. Il s'agit de rester là où le Seigneur nous demande d'être. Ce n'est pas mauvais de préparer à manger, mais c'est mauvais de le faire au mauvais moment. Et ça ne porte pas de bons fruits. Fatigue. Et là, elle était complètement à côté, Marie. Dans la rubrique « Je rate l'objectif », là, c'est un bel exemple. Et combien de fois on le fait dans notre vie ? Et je pense que si à un moment donné vous sentez, dans votre œuvre, dans votre vie de tous les jours, une fatigue, un début de ressentiment, l'absence totale de paix, posez-vous la question, est-ce que c'est en ligne avec l'appel ? Est-ce que c'est ce que le Seigneur me demande ? Si oui, est-ce que c'est ce que le Seigneur me demande de faire maintenant ? Ou est-ce que je m'y prends de la bonne manière ? Ou est-ce que je ne suis pas en train de me focaliser là-dessus et de me laisser absorber par ça ? Au détriment de ma relation avec le Seigneur ? Posons-nous toutes ces questions. Moi, je peux me la poser dans de nombreux domaines de ma vie. Ça répond à beaucoup de mes questions. Et si, à l'issue de cet été, on a pu tous ensemble méditer sur cette notion de proximité, si ça a pu susciter en vous, en moi, l'envie d'aller plus loin dans la relation avec le Seigneur, dans l'intimité avec lui, alors on peut dire que cet été aura été réussi. Et je conclurai par la toute petite dernière chose. Le salut est une porte d'entrée à la présence de Dieu. Et c'est un peu comme essayer de le visualiser comme un trajet plus ou moins long qui correspond à notre durée de vie sur Terre. Un trajet au bout duquel on va être dans un face-à-face direct avec Jésus. Je pense qu'on ne médite pas suffisamment souvent. On devrait le méditer sans arrêt. Un beau jour, je vais me retrouver dans un face-à-face direct avec Jésus. Ce ne sera plus de façon indirecte. Hein. Un face-à-face direct. Que va-t-il se passer ce jour-là ? Est-ce qu'on va s'embrasser ? et recevoir cette parole d'encouragement et de félicitations de la part de Jésus. Quelqu'un qu'on connaît déjà, on se prend dans les bras, on est déjà intime. Ou est-ce que c'est « Waouh, je découvre qui il est », le profond malaise, toute une vie où je me suis peut-être agité dans tous les sens, mais je ne l'ai jamais réellement connu. Je n'ai jamais réellement passé du temps avec lui, dans sa présence, dans la présence de Dieu. Si aujourd'hui, l'idée, la perspective de passer votre éternité à louer le Seigneur ne fait pas plus écho que ça, ça veut dire que vous avez encore de l'espace à parcourir pour entrer dans la présence de Dieu. On a tous envie d'aller au ciel, de vivre l'éternité avec Jésus, mais très très souvent, ou la plupart du temps, c'est souvent comme une espèce de libération par rapport à cette vie qui est trop difficile. Libérer des maladies, libérer de la tristesse, libérer de l'oppression, la vie parfaite. Mais il est dit qu'on sera, et que les anges actuellement sont dans un acte de louange et d'adoration permanent, 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 permanent. Est-ce que ça t'attire? Est-ce que ça fait écho en toi? Si c'est le cas, reste dans la présence de Dieu, sois béni. Si ça n'est pas le cas, ça veut dire que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu es peut-être sauvé, tu as accès, tu fais partie des heureux qui ont accès au salut, à la présence de Dieu, mais tu peux aller encore un peu plus loin. Et je vous laisse simplement méditer là-dessus. Je nous laisse méditer là-dessus. Laissons le Seigneur nous prendre vraiment et nous saisir de l'intérieur. On va simplement passer un peu de temps en prière afin que ces choses-là puissent être déposées dans notre cœur. Laissez-vous imprégner par ça. Vous savez, souvent on est d'accord avec ce que l'on entend parce qu'il y a l'approbation du Saint-Esprit. Et puis après, c'est à nous de décider si ça va rester une bonne prédication, une bonne idée, un bon thème, un bon encouragement, une bonne exhortation. Ou si au contraire, ça va se concrétiser par un changement dans votre vie. Et moi, je souhaite qu'à l'issue de cet été, nous puissions être différents. Je pense qu'on a besoin d'être différents. Seigneur, nous reconnaissons que tu es le Dieu trois fois saint. Nous croyons, Seigneur, que tu as tout fait pour venir nous chercher au fin fond de là où on était, au fin fond de la boue. Nous étions séparés de toi, Seigneur, et toi tu es venu nous chercher. Seigneur, je désire que chacun d'entre nous aujourd'hui puissions prendre ces paroles, les appliquer dans notre quotidien, Seigneur. Que nous puissions entrer dans le repos qu'il y a dans l'intimité avec toi. Dans le repos qu'il y a dans un travail propulsé par l'onction, soutenu par l'onction. Un travail caractérisé par l'absence de fatigue et par des fruits concrets. Je désire vivre cela, Seigneur. Je désire que chacun de nous puissions le vivre. Seigneur, je prie pour que ta révélation soit toujours plus forte. Il ne s'agit pas forcément d'une force de révélation, il s'agit d'être pour nous en mesure de recevoir ce que tu veux nous donner, Seigneur, de nous mettre en condition de recevoir, afin que notre connaissance, notre intimité avec toi soit toujours plus grande et que le jour où nous serons face à face avec toi soit le jour qui couronne toute une vie de communion et d'intimité avec toi. Je prie cela pour chacun de mes frères et sœurs. Et je vous invite juste à passer un tout petit moment, quelques minutes, vous puissiez vous positionner par rapport à ça. Laissez le Saint-Esprit vous parler, tranquillement. Vous savez, le Saint-Esprit, quand il parle, c'est une voix douce, très 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 légère. Et vous avez la certitude que c'est lui qui vous parle, que ça vous met dans une paix. Et puis essayez de penser un petit peu à l'appel qu'il y a sur votre vie. Cet été, le Seigneur, à plusieurs reprises, c'est clair que ça vient de lui, nous a rappelé de nous soucier de notre appel. Alors, pensez-y, quel est ton appel? Quel est l'appel qui est sur ta vie? Soit c'est quelque chose de très ancien et tu as fini par ne plus trop y croire, parce que trop de temps est passé, et c'est un rêve qui s'est peut-être effrité. Soit tu t'es jamais véritablement posé la question, ou alors c'est quelque chose d'un petit peu flou encore, qui a besoin d'être précisé. Mais demande au Seigneur de te le préciser. Il va te le révéler. Passez ces quelques instants en méditant un peu sur ces choses. Et puis on conclura notre culte là-dessus. Je laisserai la parole à Jérémie. Merci Seigneur. Merci pour ta présence Seigneur. Nous sommes devant toi. Tu es ici présent au milieu de nous. Et tu es un Dieu vivant. Donc qui parle. Il existe une interaction. Alors nous recevons ce que tu as à nous dire Seigneur. Avec un cœur reconnaissant. Merci Seigneur de nous avoir considérés comme aussi importants que ça.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.